J'aimerais lire avec vous dans l'épître aux Romains, chapitre 8. Je vous laisse le temps de chercher pour nos amis hollandais. Les versets 18 à 25. J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à la futilité, non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption filiale, la rédemption de notre corps. Car c'est dans l'espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. J'aimerais encore lire ce verset qui suit. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs sait à quoi tend l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Vérité, ta parole, Seigneur. Attendre, soupirer, souffrir, espérer. Quatre mots pour dire ce que la création éprouve. Et comme nous, ce que nous éprouvons et ce que l'Esprit éprouve. Il est dit que l'Esprit soupire. Et ainsi, l'apôtre Paul personnifie la création et la rend vivante. Et il semble que Paul ait utilisé comme toile de fond ces paroles du prophète Ésaïe écrites des siècles auparavant et qui est très actuelle. Dans Ésaïe 24, versets 4 à 5, il est dit « La terre est en deuil, elle tombe en ruine. Le monde se délabre, il tombe en ruine. Le ciel aussi se dégrade en même temps que la terre. La terre a été souillée sous les pieds de ses habitants. » Car ils ont passé par-dessus les instructions du Seigneur. Ils ont violé les règles, ils ont rompu l'engagement qui les liait à Dieu pour toujours. La terre est en deuil, en ruine, et ce sont les hommes qui sont mis en cause pour n'avoir pas respecté les instructions du Seigneur. Et il y a un lien manifeste entre l'action des hommes et le verdict de Dieu qui ricoche sur toute la création. En effet, nous sommes liés à la création depuis le début de l'histoire de l'humanité. Lorsque Dieu nous raconte l'histoire de la création, il commence par nous parler de son environnement, du jardin dans lequel il va mettre l'homme et la femme. Et à la fin, Dieu vit que cela était bon, il dit même que cela était très bon. Et cette expression « très bon » eh bien, s'applique à la biodiversité, qui réjouit le cœur de Dieu. Et c'est le péché qui vient détruire cette harmonie, notamment par la désobéissance de l'homme et de la femme. Et cela entraîne un bouleversement des relations fondamentales, la relation avec Dieu, la relation avec le prochain, mais aussi la relation avec la création. Et l'humanité porte dans ses mains la culpabilité de la souffrance du reste de la création. Et pour qualifier l'état de la création, Paul utilise deux termes. D'abord, il dit que la création était soumise à la futilité. Et ce terme de futilité ou de vanité comprend aussi l'idée d'absurdité qu'on trouve dans l'Ecclésiaste. Et puis, Paul dit que la création sera libérée de l'esclavage du périssable. Et ce terme doit être compris au sens d'altération ou de décomposition, plutôt qu'au sens moral de malhonnêteté ou de corruption. Paul affirme ainsi que la création est soumise à l'esclavage de la pourriture, donc une image pour qualifier la finitude de toute chose. Et dans son état de décomposition, eh bien la création, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle attend. Et cette attente, elle est soulignée avec force. C'est une attente vive, une impatience fébrile, une attente vécue dans la souffrance et les soupirs. Et ce texte biblique, il nous offre en fait une sorte de lucidité qui permet de poser des mots sur nos inquiétudes face à la problématique écologique. Nous connaissons les constats alarmants qui sont posés par les scientifiques, réchauffement climatique, ressources qui diminuent alors que la population augmente, pollution de l'air et des sols qui menacent la biodiversité et l'équilibre naturel. Et Paul regarde la réalité en face et il assume que le monde est rempli de souffrance, d'absurdité, de pourriture. Et ces gémissements n'ont fait que s'accentuer avec le temps. Aussi, ce texte peut rejoindre la préoccupation de nos contemporains. Et en même temps, il est question des douleurs d'enfantement, ce qui signifie qu'il y a un espoir de vie. Les accouchements ne se terminent pas toujours bien. En général, ça aboutit à la vie. Et c'est un regard d'espérance qui est exprimé au travers d'une attente de la délivrance. Car l'objectif final de Dieu, ce n'est pas la corruption, le déclin ou la pourriture, mais bel et bien la restauration de toutes choses dans l'union avec Jésus-Christ. Donc le fait d'attendre, c'est un véritable défi pour notre monde actuel, où tout est finalement instantané, où on ne sait plus attendre. Et dans ces circonstances, la perspective d'un monde à venir est devenue difficile. Alors on peut avoir deux attitudes face à cela. Soit on attend passivement, on vit dans la résignation en disant que de toute façon tout est foutu. Soit on attend d'une manière active de la résurrection et on pose des signes d'espérance à la manière de Martin Luther qui a dit « Si on m'annonçait que la fin du monde est pour demain, eh bien, aujourd'hui encore, je planterai quand même un arbre. » Et c'est ça l'attente active. Et en fait, l'apôtre Paul, il nous donne justement une clé qui va dans ce sens, à savoir vivre le temps présent grâce à l'espérance. Et derrière ce mot « espérance », il y a l'idée d'une confiance patiente en dépit des circonstances, des tempêtes, comme on a parlé ce matin, une espérance enracinée en Dieu, dans ce Dieu qui est fidèle. Et dans notre présent, il y a des signes qui nous aident à espérer, à vivre ce qui n'est pas encore, mais qui est déjà là. Et ce qui est déjà là, nous dit le texte, c'est l'Esprit de Dieu, les prémices de l'Esprit, souffle de vie, souffle créateur. Et la nature nous parle aussi du déjà là, de la résurrection, en nous donnant au printemps des signes d'espérance. Lorsqu'on la voit se réveiller, quand on voit les bourgeons qui bourgeonnent, quand on voit les oiseaux qui font leur nid, quelle vitalité, quelle énergie! C'est extraordinaire, cette puissance de vie qui peut se réveiller de la mort, d'une brindille. On voit un brin de mort et puis la vie se réveille, c'est tout juste extraordinaire. Et c'est avec vigueur que la création tout entière espère et attend. Donc c'est un appel à la vigilance et à la responsabilité qui résonne et qui nous rappelle que notre destin, finalement, il est lié à celui de la création. Et François d'Assise avait bien compris cela. Il était né au XIIe siècle d'une riche famille de marchands d'Italie. Et il était bien connu dans sa jeunesse pour son style de vie extravagant. Mais il était confronté à la maladie. Et pendant un temps de prière, il a entendu une voix qui lui a dit « Va François, répare ma demeure qui est en ruine. » Alors dans un premier temps, François a compris ce message très littéralement. Et il a donné tout ce qu'il possédait pour aller reconstruire quelques églises qui étaient en ruine. Il a fait vœu de pauvreté afin de rester concentré sur son ministère et de ne pas être distrait par son précédent mode de vie accumulateur. Et puis, avec le temps, il a réalisé que la demeure de Dieu, en fait, c'était la maison de Dieu, oikos en grec, d'où dérivent les mots eh bien, écologie, économie, œcuménique. Et petit à petit, François vit que cette maison n'était pas seulement constituée de bâtiments d'église délabrés, mais que cette maison incluait aussi le pauvre, les créatures terrestres, les affligés. Et puis, il a réalisé que la maison de Dieu incluait en fait toute la création, et même la partie la plus vulnérable de la création, lui révélait d'une manière particulière la figure de Jésus-Christ. Alors, François réalisa qu'il partageait un foyer avec la lune, le soleil, les étoiles, l'eau, les fleurs, les enfants, les personnes âgées, les oiseaux. Et c'est pourquoi bien François les appelait frères et sœurs, et il les considère comme sa famille. Et François a toujours remis en question son propre confort pour protéger les membres de sa famille et en prendre soin. Et avec sa famille, eh bien François louait celui qui est la source de vie, le Dieu créateur. Alors, j'avais une petite discussion avec un ami curé et un chant qu'on attribue qui vient aussi un petit peu de François d'Assise et qui parle par toute la création avec Frère Soleil. Je lui disais, moi, ma difficulté de chanter avec Frère Soleil parce que je comprenais sous l'aspect spirituel. Et puis donc depuis, il m'appelle Sœur Lune et moi je l'appelle Frère Soleil. Mais en fait, c'est pas tellement dans un sens spirituel qu'il faut comprendre ça, mais dans le sens que frères et sœurs avec toute la création, pas dans le sens frères et sœurs en Christ. Et nous aussi, nous aimons mettre en valeur le Dieu créateur dans nos cantiques. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Nous aimons chanter le Dieu créateur. Et pourtant, il faut reconnaître que nous sommes en train d'étouffer la voix de la terre, de façon consciente ou inconsciente. Vous savez tout comme moi combien les espèces d'oiseaux, de mammifères, de poissons sont menacées d'extinction immédiate, comme résultat des pertes d'habitat, de la pollution, du réchauffement global dû à l'activité humaine. Et tout cela a des répercussions sur la maison commune que nous partageons tous ensemble. Et nous avons une responsabilité vis-à-vis de la création, mais nous avons aussi une mission vis-à-vis de la création. Cette mission, nous l'avons souvent sous-estimée, avec comme argument que ce qui compte, eh bien, c'est le salut de l'être humain. Alors bien sûr, c'est juste, mais à force de lire la Bible uniquement sous l'angle de la relation de Dieu avec les hommes, on en oublie cette partie de la création pour laquelle Dieu se préoccupe aussi. Alors il faut bien entendu faire attention à la dérive qui consiste à faire passer la création ou l'animal avant l'homme. Mais il semble que nous soyons allés trop loin dans le fait de mettre l'homme au centre et qu'il est bon, il serait bon, d'avoir ce regard de compassion porté sur les pauvres, que ce soit étendu au reste du vivant, d'autant plus quand on parle d'église verte. Je ne sais pas si vous avez ces réflexions ici. Mais je ne peux pas m'empêcher d'évoquer ici Sévère d'Antioche, un théologien grec du 6e siècle, dont j'ai étudié les prédications pour ma thèse de doctorat. Et il arrive à Sévère d'Antioche de parler des animaux dans ses prédications, chose qu'on fait finalement peu souvent. Lorsqu'il commence son ministère en l'an 512 à Antioche, les courses de chevaux ont fini depuis 1607 à cause des violentes émeutes qu'il y avait dans l'hippodrome. Et l'empereur Anastase va lever cette sanction. Et Sévère va exprimer toute sa tristesse et il va l'exprimer à ses auditeurs dans ses prédications. Et il va leur reprocher d'aller voir les courses de chevaux. Et il va s'écrier, mais est-ce que tu crois que ça réjouit le cœur du Dieu de l'univers? Lui qui a commandé à l'âne de porter une charge, au bœuf de tirer le joug, lui qui a donné la rapidité au cheval pour que nous fassions rapidement des voyages lointains, que nous communiquions des renseignements de l'autre côté des frontières. Mais ce n'est pas pour que nous utilisions l'animal pour des courses excessives, pour le faire tourner sur lui-même et pour que nous le fassions périr. Et toi, quand tu prêtes ton cheval à quelqu'un pour qu'il s'en serve, et de bien tu supportes difficilement qu'il soit employé pour des tâches pénibles, alors, est-ce que tu penses que Dieu ne supporte pas difficilement ou qu'il n'est pas irrité quand c'est en dehors des causes nécessaires et en dehors de ses commandements qu'il te voit te servir sans pitié des animaux? Car la miséricorde de l'homme, dit un sage, est pour son prochain, mais la miséricorde du Seigneur est pour toute chair. Derrière ces paroles, il y a un profond respect envers les animaux, en tant que créatures de Dieu. Et cela nous invite à imaginer les sentiments éprouvés par le Créateur devant les abus infligés aux animaux. Et à l'heure actuelle, il y en a aussi beaucoup. Et cela irrite Dieu. Et dans une autre de ses prédications sur le même sujet, Sévère d'Antioche rappelle qu'il nous faut imiter Dieu. Il dit « Soyez miséricordieux, dit-il, comme votre Père est miséricordieux. » Et il attribue cette parole de Jésus non seulement aux êtres humains, mais aux animaux. Et je dois dire, ça m'a fait réfléchir. Et je suis personnellement plus attentive à des textes comme à celui à propos du sabbat. Dieu dit, en Exode 23, verset 12, il dit « Pendant 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, tu feras sabbat, afin que ton bœuf et ton âne puissent se reposer, pas seulement toi, et que le fils de ta servante et l'immigré puissent reprendre haleine. » Donc ce commandement concerne en particulier les sociétés agricoles, mais cela montre l'intérêt de Dieu pour les animaux. Ça nous invite à la réflexion. Alors, certains considèrent que la question écologique, notamment celle du changement climatique, nous éloigne de la tâche essentielle qui est celle d'évangéliser les êtres humains et qu'on ferait mieux d'annoncer l'évangile que de s'inquiéter de la terre. Mais en réalité, cette façon de voir doit davantage à la philosophie païenne grecque qu'à la Bible. Ce sont Platon et Aristote qui ont avancé l'idée que les questions spirituelles étaient infiniment supérieures aux questions matérielles. Mais à l'inverse, la vision hébraïque qui sous-tend la Bible ne sépare pas le spirituel de la matière. Quand Dieu parle de toute chair, il englobe toute la personne dans son intégralité. Et en réduire la mission à des activités purement spirituelles est loin d'être biblique et ça limite la seigneurie de Jésus-Christ. La mission devrait inclure en fait tout ce pourquoi Dieu envoie son peuple dans le monde. Il s'agit bien sûr de garder une place centrale pour l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais il s'agit de comprendre aussi que les actions de protection et de plaidoyer pour la création font partie de la mission globale de l'Église. Alors face au bouleversement écologique, ne nous laissons pas culpabiliser. Et il y en a qui ont vite fait de le faire. La culpabilité ne vient pas du Seigneur. L'œuvre de l'Esprit, c'est de mettre en lumière les choses, de nous amener à la repentance et de nous aider à aller de l'avant et de saisir les nombreuses opportunités qui sont faites aussi actuellement et qui voient le jour guidées par l'Esprit, souffle de Dieu, Dieu créateur, qui nous rend co-créateurs, mais aussi témoins de son amour. Et ça peut être par des actions toutes simples, aussi en faveur de la création, que Dieu nous veut comme témoins. Je me rappelle à Colmar-Ingersheim, où nous participions au nettoyage de printemps, avec la commune. C'est aussi une manière d'être témoin ensemble. À Ilkirch aussi, nous l'avons fait. On appelle ça l'Osterputz en alsacien. Et puis c'est une manière toute simple. Le Seigneur ne nous demande pas des choses compliquées. Eh bien, ces paroles de l'apôtre Paul aux Romains sont encore pertinentes pour nous aujourd'hui. Peut-être encore plus que lorsqu'elles ont été écrites. Les gémissements dont il est question sont un rappel de ce que la création souffre des douleurs de l'injustice et de la vulnérabilité. Alors certes, les êtres humains souffrent aussi de l'oppression, de la guerre, de la maladie, qu'elle soit physique, psychique. Et lorsque nous parlons de création, nous parlons d'un créateur. Et cela nous permet de continuer d'espérer. Et ces gémissements qui évoquent les douleurs du travail d'accouchement ne sont pas l'expression d'un apitoiement sur soi-même, mais ils anticipent un nouveau commencement. Alors nous sommes en route vers Pâques, vers la résurrection de Jésus-Christ, avec un passage obligé sur ce chemin. Ce passage obligé, c'est la mort, c'est la croix. Avant la vie, il faut que le grain de blé tombe en terre et qu'il meure pour porter du fruit. Et ce bois de la croix, cet objet de torture, d'humiliation, de malédiction, est devenu un signe d'espérance et de fécondité pour la foi chrétienne. Alors les pères de l'Église, très tôt, ont fait le rapprochement entre le bois de la croix et l'arbre de vie, mentionné au tout début de la Bible et à la toute fin de la Bible. L'arbre, c'est un magnifique symbole de vie qui symbolise le fruit qui s'élève aussi vers le ciel, qui s'enracine dans la terre et en fait qui nous montre entre l'alliance entre le ciel et la terre. Par sa mort sur la croix, Jésus-Christ nous a donné la vie et la possibilité de porter du fruit. Alors oui, Dieu est résolument du côté de la vie. Ainsi, notre espérance n'est pas seulement dans le Christ mourant, mais dans le Christ ressuscité. C'est lui que nous attendons. Alors tout comme la création entière attend, soupire, souffre, espère, nous aussi nous attendons, nous soupirons, nous souffrons, nous espérons. Alors dans ce chemin vers Pâques, prenons des temps de pause pour contempler la création, pour nous placer devant Dieu, pour l'écouter, pour l'entendre, et que ce temps d'attente puisse être fécond et nous permettre de poser des signes d'espérance concrets, des signes de vie qui le glorifient. Amen.
Amen.
Que le Seigneur vous bénisse.